Fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Je suis Rafika Taher pour la modération. Situé dans la partie sud de la région de Tillabéri, le département de Sai est l'une des zones les plus forestières du Niger. C'est dans ce département que se trouve la plus grande partie forestière qui couvre environ 220 000 hectares et regorgeant un nombre important d'espèces animales et végétales et une forêt protégée. Vous l'avez certainement deviné aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés à Sai pour vous illustrer un peu sur la situation économique du département. Alors, quelle est la situation économique rurale du département de Sai dans le contexte d'insécurité? C'est le thème du débat sur lequel nous allons discuter aujourd'hui. Pour répondre à nos questions, nous avons invité Mme Kadri Biba, communale élevage de Sai, M. Ali Garbakona, directeur départemental de l'agriculture, Mme Boubacar Zahra Oumarou, receveur municipal de la commune urbaine de Sai et M. Abdelrachid Hamadou, directeur départemental hydraulique et assainissement. M. Kona, on va commencer par vous. La situation de la campagne agricole à Sai, comment est-ce que vous la qualifiez?
Voilà, merci. Et avant de répondre à votre question, donc, je profite de votre antenne pour informer le public que le département de Sai compte trois communes. Il y a la commune urbaine de Sai, la commune rurale de Tamou et la commune rurale de Ourgalagio. Sur l'ensemble du département, nous avons 123 villages agricoles. Donc, il y a 50 villages agricoles pour la commune urbaine de Sai. Il y a 50 aussi pour la commune rurale de Tamou et 23 villages pour la commune rurale de Ourgalagio. En ce qui concerne la campagne agricole, ce que je peux dire, cette année, ça a commencé précocement. Nous avons enregistré les premières pluies à la deuxième décade du mois de mai et les semis se sont achevés à la deuxième décade du mois de juin. Présentement, nous sommes à la phase de récolte. En ce qui concerne la pluviométrie, cette année, nous avons 475,7 mm en 28 jours contre 509,3 mm en 28 jours. Donc, du coup, il y a un petit déficit en ce qui concerne la pluviométrie. Mais dans l'ensemble, on peut dire que la campagne agricole cette année a répondu favorablement aux attentes des producteurs. Néanmoins, on a eu quelques difficultés. Peut-être nous allons revenir les difficultés.
Oui.
Donc, c'est ces difficultés-là qui ont fait en sorte que la production n'a pas donné à 100%. Donc, il s'agit des phénomènes naturels tels que les inondations. Nous avons eu des infestations. Les inondations, c'est à Sai, c'est au niveau de la commune de Sai, là où on a enregistré 9 villages. Il y a les infestations dans la commune de Tamou vers Guéimé et il y a l'insécurité aussi. Voilà.
Justement, l'insécurité liée aux attaques des groupes armés doublés d'une mauvaise campagne agricole, a quel impact sur la situation alimentaire des populations?
Bien, donc en ce qui concerne l'insécurité, ça a vraiment impacté la production agricole. Donc, le premier point, vous savez très bien, en ce qui concerne l'agriculture, il faut nécessairement ce qu'on appelle un intrant agricole. Ça regroupe les semences et les matériels agricoles. Et là, on les procure au marché. Donc, le premier problème, c'est l'inapprovisionnement des marchés en intrants agricoles et en denrées alimentaires. Vous voyez? Donc, le producteur, il est là, il veut travailler, étant donné qu'il ne peut pas se procurer des semences et des matériaux agricoles. Donc, ça va du coup freiner la production. Ça, c'est un. Alors, il y a l'abondance des terres cultivables par les menaces des terroristes. Vous voyez, si on prend l'exemple de la commune de Tamou et de Ourgalagio, donc les djihadistes ont menacé les populations de quitter le lieu, alors qu'ils ont déjà installé leurs champs. Donc, ils ont abandonné les champs. Vous voyez, donc, du coup, ça induit donc une perte. Vous voyez, donc, en dehors de ça, bon, en ce qui concerne les abandons, au niveau de Tamou, nous avons 13 villages. Vous voyez, et au niveau de Ourgalagio, nous avons à peu près 11 villages qui ont quitté, ils ont laissé leurs champs. Et le problème à Ourgalagio, les populations déplacées, elles étaient venues vers le village de Ourgalagio en tant qu'étel. Ils sont venus avec leurs animaux aussi. Vous voyez, et les animaux là, en fin de compte, ils ont causé des dégâts sur les champs de la population haute. voyez, tout ça là, c'est l'impact de l'insécurité. Donc à cela, on peut ajouter aussi, comment on appelle ça là, la hausse des prix. Étant donné que les marchés ne sont pas ravitaillés, du coup, il y a une hausse des prix des denrées alimentaires. Donc en dehors de ça, il y a l'inaccessibilité des marchés aussi. Et si on prend la campagne de culture irriguée, voyez, donc il y a une forte production. Malheureusement, les populations, les producteurs ne peuvent pas aller dans les marchés pour écouler leurs produits. Voyez, là aussi, ça a vraiment amené un impact. Tout ça, là, c'est dû à l'insécurité. Donc voilà ce que je peux dire par rapport.
D'accord. Donc comment arrivez-vous à rattraper? Vous avez parlé d'abandon des champs. Comment est-ce que vous arrivez à rattraper le coup? Par exemple, des champs qui ont été abandonnés, ces agriculteurs, qu'est-ce qui advient d'eux?
Bon, ça c'est presque les solutions. Nous, la première des choses, ce qu'on préconise, c'est la sensibilisation. Nous allons continuer à sensibiliser la population, notamment les jeunes désœuvrés. Vous voyez, sur l'impact de l'insécurité. La deuxième des choses, nous allons intensifier les cultures maraîchères, les cultures irriguées, en mettant l'accent sur la production de, comment on appelle ça là, de manioc et de la patate douce.
Oui, justement.
Vous voyez? Entre-temps, nous allons plaider pour qu'il y ait plus d'aménagement des sites maraîchers. Donc, les sites maraîchers. C'est pas fini. Donc, nous allons aussi renforcer les structures communautaires. Nous avons les OSV, les SCAPRU. Nous allons les renforcer et donc en formation. Nous allons aussi voir si on peut soumettre des plaidoyers au niveau des partenaires, voyez, pour la construction des BC, les banques céréalières et les banques intrants agricoles. Parce que le problème, c'est parce que tout simplement, on n'a pas la denrée à côté de nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces masses. Ça aurait été que dans chaque commune, on a des BIA, les banques d'intrants agricoles. Le problème ne se pose pas. Le producteur va tout simplement aller s'en procurer. Donc, nous allons mettre l'accent sur la création des banques céréalières et des boutiques d'intrants agricoles. Donc, à part ça, nous allons promouvoir ce qu'on appelle le warrantage. Donc, c'est une façon pour ne pas que le producteur brade son produit. Aussitôt après la récolte, vous allez voir les producteurs, ils vont essayer de brader leurs produits. Mais avec le système de warrantage, on va récupérer les produits. Donc, on va garder le coût au niveau de la récolte. C'est avec ça qu'on va travailler. Après 6 mois, on donne à chaque producteur son produit. Et ça se fait avec une institution de microfinance. Donc, voilà. En fin de compte, nous allons essayer d'appuyer les producteurs en intrants agricoles.
D'accord. Et est-ce que, on va parler maintenant des aléas climatiques, est-ce que ces aléas pourraient impacter sur le bon déroulement de la campagne agricole dans le département de Say?
Tout à fait.
Comment?
Dans mon introduction, je l'ai dit, je vous ai parlé des inondations. Vous voyez, les inondations, cette année, elles ont vraiment impacté la production. Si on prend la commune de Say, je vous ai dit qu'il y a 9 villages. 9 villages, et j'ai même 9 villages pour un total de 436 sinistrés. Heureusement, donc l'État a mené des appuis. Donc ça, c'est les inondations. À part ça, il y a les infestations aussi. Tout ça, là, c'est naturel. Et si vous prenez rien que la chenille mineuse de l'épi, ça a tellement baissé la production cette année. Dans toutes les communes, vous voyez. Donc, en dehors de ça, on a rencontré quelques poches de sécheresse. Et à part ça aussi, la pluviométrie en tant que telle, certes, on a eu jusqu'à 475 mm, mais elle n'a pas été bien répartie. Ça aussi, ça a vraiment impacté la production.
D'accord. Les méthodes de prévention pour faire mise en place, pour faire face à tout cela, pour aussi réduire l'impact sur l'insécurité.
Bon, maintenant, si on prend l'exemple de l'inondation. Nous, tout ce qu'on peut faire, ou bien ce qu'on a préconisé, et aussitôt après une inondation, ici on ne peut que parler des appuis. On ne peut que parler des appuis parce que à Say, je vous ai dit que les 9 villages qui ont été inondés, les champs qui ont été inondés, l'État a mené des appuis. Oui.
D'accord. Nous allons parler maintenant des aménagements hydro-agricoles en cours de réhabilitation. Où est-ce qu'ils sont situés?
Bon. Pour le moment, nous avons deux
aménagements. Est-ce qu'il y a, voilà, le nombre d'aménagements?
On a deux aménagements hydroagricoles, oui. SAE 1 et SAE 2. Mais en dehors de cela, avec la création du barrage de Kandaji, il y a un projet d'aménagement hydroagricole vers Moulere. Et ça va s'étendre jusqu'à SAE. Ça, c'est en perspective. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Mm. Et est-ce que ces périmètres connaissent des difficultés? Comment est-ce que ça se passe?
En tout cas, les difficultés, ces périmètres-là, leur première difficulté, c'est l'approvisionnement en engrais. Vous savez très bien que ces dernières années, l'engrais coûte très cher. Mm-hmm. Présentement, le sac d'engrais coûte 33 000. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, le gros problème des aménagements, c'est c'est l'intrant agricole, c'est l'engrais. Ils n'ont pas accès à l'engrais. L'engrais coûte très cher. Donc, c'est ça leur premier problème. Bon, le second problème, c'est des petits problèmes dus à la structuration des coopératives. Ça, avec des renforcements de capacité, on peut résoudre ça. Mais le gros problème, c'est l'approvisionnement en intrants agricoles, notamment les engrais.
D'accord. Madame Bibata, du fait des importantes ressources fourragères disponibles, le département de Sey est une zone où l'élevage est largement pratiqué par les populations. Dans le contexte actuel, comment arrivez-vous à vous en sortir?
Dans le contexte actuel, moi, je pourrais dire que l'élevage se porte bien puisque le potentiel animal est là, malgré quelques problèmes alimentaires et sanitaires dont nous vivons chaque jour. Et vient s'ajouter l'insécurité aussi. L'insécurité a un impact sur la mobilité des animaux. L'élevage à Sey, le mode est extensif. Donc, les éleveurs sont à la recherche des aliments. Ils cherchent des aliments vers les zones d'insécurité. Donc, ces éleveurs-là sont confrontés aux bandits armés qui leur imposent des fois des impôts ou même ils sont même des fois tabassés. Donc, la mobilité de ces animaux-là ne peut pas se passer. De telle enseigne que ces animaux, ils sont obligés de les stagner ou bien l'alimentation même des animaux est menacée. Mm-hmm. Vous voyez, ça a un impact sur la production. L'insécurité a un impact négatif sur l'élevage. Donc, de telle sorte que les éleveurs ne peuvent pas se mouvoir, donc ils ne peuvent pas trouver d'aliments. À ça, un autre problème, ils n'ont pas d'air de pâturage. Les espaces vides qui existent pour l'alimentation des bétails, là aussi, ils sont colonisés par des espèces non appétées. De telle sorte que la valeur nutritive des animaux que les animaux trouvent ne peut pas répondre à leur capacité alimentaire. Oui.
Donc, quels sont les moyens de recours maintenant?
Les moyens de recours dont nous préconisons, c'est de voir comment intensifier la culture fourragère, puisque nous sommes le long du fleuve. La culture fourragère peut être favorable en faveur de l'éleveur. Amener la création des banques aliments bétail, puisque le sang même, l'aliment de base, on ne trouve pas. Même si on trouve ça, ça coûte tellement cher, ce n'est pas accessible aux éleveurs. Donc, nous, c'est ça qu'on forme.
Et ce manque d'aliments bétail, quel impact est-ce que ça peut avoir sur les animaux
si les animaux ne trouvent pas à manger,
où est-ce que vous les amenez finalement pour qu'ils puissent avoir au moins ça?
Il y a l'État, des fois, il intervient, il y a un apport alimentaire qu'il fait chaque année aux éleveurs, mais c'est insuffisant. Ça ne peut pas couvrir les besoins des animaux.
Il faut à peu près combien?
Cette année, nous, on a reçu 113,5 tonnes pour une capacité. Il faut voir le potentiel des animaux qu'il y a. Ça ne peut pas même pas atteindre 1,5% des animaux.
Mmh. Donc, il faudra à peu près combien de tonnes pour
arriver à ça? 500 tonnes, ils peuvent en prendre. Mmh. Oui. Donc, il y a insuffisance d'aliments. S'il n'y a pas d'aliments, on ne peut pas dire qu'il y a l'élevage. Il y a les problèmes alimentaires, les problèmes de sanitaire aussi. Mm-hmm. Nous vivons de temps en temps des épisodes un peu partout dans la commune qui frappent les animaux dont on n'a pas le remède. Il faut la prévention. Et la mentalité des éleveurs maintenant, même amener les animaux au parc de vaccination, c'est un problème.
Oui, nous arrivons maintenant justement à cette question. Et qu'en est-il des infrastructures, parlant bien sûr du secteur animal, le département dispose-t-il de cliniques vétérinaires publiques
Moi,
ou privées
je parle, La commune je veux dispose dire? D'une clinique vétérinaire et d'une clinique aussi vétérinaire privée qui couvre le département, mais ils interviennent dans la commune de Saï. Donc, il y a deux cliniques vétérinaires. Les cliniques, le vétérinaire privé a des auxiliaires qui interviennent un peu partout dans la commune. Ils sont au nombre de 9. S'il y a quelque chose, les petits sont là, c'est à leur niveau qu'ils se fassent. Mais si le problème se pose, il faut recours à nous. Donc, nous sommes deux services, le service communal de l'élevage et le service privé.
D'accord. Oui. Et les campagnes de
les
vaccination
Les campagnes de vaccination...
À quelle fréquence est-ce que vous les faites?
On les fait pendant la saison sèche-froide. C'est sous le contrôle du mandataire, c'est-à-dire le service privé. Nous, on est là pour superviser les campagnes de vaccination. Oui.
D'accord. Est-ce que vous disposez de l'équipement adéquat dans ces
équipements, nous ne disposons pas. On ne dispose pas. Même le local, nous, on est sous la tutelle du département, on n'a même pas de local. Il faut voir le problème. Les agents même font du repos. Moi, je suis seule au niveau de la commune. Il y a le service vétérinaire que lui aussi, le seul avec ses paras vétérinaires. Donc, il y a insuffisance même de personnel pour intervenir.
D'accord. Insuffisance de personnel et de matériel.
Et de matériel pour s'impose, oui.
D'accord. Madame Zahra, est-ce que vous pouvez donc nous parler de la situation économique de tous ces secteurs-là dont on vient de parler? Vis-à-vis à la mobilisation des ressources financières.
Il y a les impacts de l'insécurité vis-à-vis de la mobilisation des ressources financières de la commune urbaine de Saï. Il constitue un frein dans la mobilisation des ressources financières. En ce sens, là, il y a la mobilité des personnes. La mobilité des personnes. En ce qui concerne les marchés, la commune dispose de deux marchés. Le marché de la commune et un marché de Tchentchargo qui est situé dans la zone d'insécurité. Et ça fait presque 2 ans, les activités dans ce marché sont réduites. Les collecteurs ne peuvent pas faire la collecte là-bas, même pour la mobilisation de la taxe municipale. L'équipe de recouvrement ne peut pas s'y rendre là-bas à cause de l'insécurité. Donc tout ça, là, ça freine à la mobilisation des ressources financières.
D'accord. Parlant de coûts, de l'insécurité, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner des chiffres par rapport à l'année passée, des statistiques que vous pouvez nous donner?
Vraiment, il y a un manquement.
Par rapport à l'année passée, l'insécurité, c'est plus que l'année passée. Par rapport aux années antérieures où l'insécurité ne se faisait pas trop ressentir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à aujourd'hui dans ce contexte d'insécurité?
Vraiment, la mobilisation des ressources est réduite. Mais ce qu'on a prévu, on ne peut jamais recouvrir ça. Puisque dans la zone de l'insécurité, il y a au moins quelques villes, 5 à 7 villages que nous, on ne peut pas aller percevoir des taxes dans ces zones-là. Parce qu'il y a l'insécurité là-bas. Donc, les prévisions de 2020 à 2021, on n'arrive pas à recouvrer ce qu'on a prévu à cause de l'insécurité.
Vous prévoyez combien que vous n'arrivez pas à recouvrer maintenant?
Par exemple, pour la taxe municipale, il y a une prévision de 47 millions et quelques. À peine, on a recouvré 17 à 18 millions.
S'agissant de quelle localité? Général de toute la commune?
Pour toute la
D'accord.
commune.
D'accord.
Pour la taxe, par exemple, la taxe gare routière, vous voyez, à cause de l'insécurité, le déplacement de la population est réduit. Donc, les gens ne sortent pas. Tout ça, là, ça freine à la mobilisation de cette prévision-là. Vraiment, tout ce qu'on a prévu, là, on n'arrive pas à recouvrir ça à cause de l'insécurité. Puisque une partie de la zone, là, il y a trop d'insécurité là-bas.
Donc, maintenant, tous ces problèmes que vous venez de soulever, quel impact ça a sur l'économie de la commune?
un impact négatif. Ça a un impact négatif sur l'économie de
Et qu'est-ce que ça peut engendrer, par exemple? Défavorisant quoi, par exemple, quel secteur? Qu'est-ce que ça peut défavoriser tous ces impacts-là économiques?
Secteur économique.
D'accord.
On ne peut pas faire des investissements. Les ressources ne sont pas mobilisées. Donc les investissements ou bien les prévisions faites au niveau de la commune, on ne peut pas les faire.
Madame Zahra, dans le contexte actuel d'insécurité, quel secteur vous rapporte le plus en économie?
Il y a la taxe de marché, la taxe municipale. En tout cas, nos gros recettes-là se situent au niveau de ces taxes-là, la taxe municipale et la taxe de marché.
D'accord.
Pour la taxe de marché, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a tout qui... Quand on dit marché-là, c'est inclus, il y a tout qui est dedans.
L'agriculture, l'élevage,
l'environnement, il y a tous les secteurs là-bas.
D'accord. C'est l'ensemble de ces secteurs qui vous rapportent le plus?
C'est l'élevage. C'est l'élevage, puisqu'il y a la taxe identification. Il y a pour les gros ruminants, il y a pour les petits ruminants. Et ça, c'est un secteur d'élevage. Donc, on a plus de recettes à ce niveau.
Toutes ces recettes-là que vous récoltez sont utilisées à quelle fin?
Il y a le budget de fonctionnement et il y a le budget d'investissement. Donc, les 45% de ces recettes-là sont investies dans le budget d'investissement. On utilise les 45% de ce qu'on a eu à mobiliser pour faire des investissements. Donc, ce qui reste là, ça sert au budget de fonctionnement.
Le secteur hydraulique du département de Saï, est-ce que ce secteur hydraulique, M. Abdelrachid, du département de Saï, connaît une amélioration significative ces dernières années dans ce contexte actuel?
Bon, si on doit parler du secteur hydraulique du département de Saï, on peut dire qu'il y a eu une nette amélioration sur le volet hydraulique. Donc, notamment du point de vue réalisation, nous avons eu beaucoup de réalisations dans le secteur hydraulique, donc dans le cadre de la réalisation des AEP, les adductions d'eau potable et les postes à eau. Donc, si je peux le dire particulièrement pour la commune urbaine de Saï, il y a eu vraiment beaucoup d'améliorations, si je peux le dire, parce que en matière de gestion même de la ressource au niveau de la commune, comme nous avons instaurer la continuité de la gestion déléguée au niveau du secteur. On a pu mettre beaucoup d'ouvrages en gestion déléguée, ce qui a permis vraiment d'assurer une très bonne gestion des ouvrages. Notamment au niveau de la commune de Tampon, on peut aussi noter vraiment des améliorations parce qu'on a eu des partenaires qui ont intervenu dans ce secteur. Donc, je ne sais pas si on doit citer les partenaires. Nous avons International Aid Service, donc communément appelé IAS, qui a changé de nom. Aujourd'hui, on porte de la Kermission internationale. Nous avons aussi avec l'UNICEF, qui a réalisé pas mal d'ouvrages, surtout au niveau des centres sanitaires. Nous avons l'ONG DICO. Nous avons l'ONG HELP. Pas mal d'ONG qui ont intervenu dans le secteur de l'eau. Vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce secteur.
D'accord. Vous avez parlé de la commune de Tamou qui a vu son parc national W fermé à cause de l'insécurité. Comment est-ce que votre intervention se passe là-bas?
Bon, particulièrement dans le secteur de l'eau, on n'arrive pas à intervenir au niveau du parc. Mais au niveau, aux alentours du parc, avec le projet Micro 2, on a pu faire quelques réalisations autour du parc. Mais dans le parc particulièrement, on n'a pas pu faire quelque chose.
Oui, est-ce que vous pouvez nous développer pourquoi?
Bon, on
nous
peut pas...
Ici parce... pour expliquer.
Voilà, il y a le contexte sécuritaire qui est là. Donc l'accessibilité, on a des limites d'intervention dans ce secteur. Donc notamment, l'État ne permet pas aux partenaires d'accéder à des zones vraiment à haute...
En tout cas, là où les risques sont beaucoup plus développés, quand on regarde au niveau du parc W, c'est pas facile d'accéder pour même réaliser des ouvrages, c'est pas aussi facile. Donc nous avons des limites d'intervention aussi dans le cadre sécuritaire.
D'accord. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les populations de toutes vos zones d'intervention ont facilement accès à l'eau potable?
Ah, bon,
comparativement aux années antérieures où la sécurité était présente?
Non, mais, vu le contexte sécuritaire, c'est très difficile. Par exemple, quand nous prenons la commune de Ouregelayou, aujourd'hui, c'est une commune qui est difficilement accessible et c'est une commune qui, en matière d'alimentation en eau potable, est vraiment, en tout cas, je dirais, mal positionnée au niveau du secteur de l'hydraulique. On n'arrive pas à réaliser vu le contexte sécuritaire. Carrément, on peut dire que nous ne pouvons même pas faire des interventions dans cette zone. Et au niveau de Tamou aussi, on avait eu ces difficultés. Parce qu'il y a même eu des ouvrages qui ont été programmés, mais vu le contexte sécuritaire, on n'a pas pu réaliser. Du fait, on est obligé de changer de site.
D'accord. Donc, où est-ce que votre activité se déroule bien?
Particulièrement au niveau de la commune urbaine de Saye et quelques villages aux alentours de la commune.
D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres comparatifs par rapport aux autres années? À quel pourcentage est-ce que vous exécutez votre activité?
Au niveau
du département et des communes du département de Saye et de ses communes?
Bon, d'une façon générale, quand on parle de pourcentage, vous savez, même avant le contexte sécuritaire, on avait ces difficultés. Certes, ça dépend de la programmation. C'est vrai, on a eu beaucoup de programmation au niveau du département au moment où l'insécurité s'est installée, parce que les années antérieures n'avaient pas eu de programmation. Donc, malgré ces contextes sécuritaires, quand on fait la part des choses, on va voir que c'est comme si au niveau du département, il y a eu une nette amélioration. Mais en réalité, quand on regarde les ouvrages programmés qui n'ont pas été réalisés, on aurait dû avoir plus de pourcentage que les années antérieures.
D'accord. À part l'insécurité qui sévit dans le département, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que vous rencontrez dans la bonne marche de votre activité?
Bon, les problèmes, ça ne manque pas. Quand vous voyez aujourd'hui au niveau de ça, nous avons, dans les années antérieures, on avait moins de partenaires qui interviennent dans le secteur. Mais Dieu merci quand même, maintenant ça va. Et c'est surtout ce qui nous bloque, parce que vous savez, aujourd'hui, la réalisation des ouvrages, c'est au niveau des partenaires, hein, parce que tout est laissé aux communes. Donc, l'intervention des partenaires, c'est via les communes. Donc, vous voyez, les difficultés qu'on a, surtout, c'est les partenaires.
D'accord.
Au niveau des partenaires.
Et aujourd'hui, à cause des problèmes, vous avez beaucoup de partenaires.
Oui, parce que dès qu'on dit qu'il y a le contexte sécuritaire qui s'installe, donc il y a l'humanitaire qui est là, chacun veut venir accompagner les communautés. Quand nous regardons un peu autour de nous, regardons seulement le secteur de l'hydraulique. Aujourd'hui, on n'a pas mal de partenaires qui interviennent dans ce secteur, notamment avec les événements de Ouregelayou. On peut citer plus de 10 partenaires qui se sont manifestés pour accompagner les communautés en matière de roche.
D'accord.
On a pratiquement parlé du volet hydraulique, mais l'assainissement...
Oui, de l'assainissement, oui.
L'assainissement en tant que tel, c'est là où vraiment, quand on regarde ce secteur-là, est moins développé au niveau de Saye. Quand vous regardez autour même de la ville de Saye, quand vous regardez le volet assainissement, ça reste à désirer. Et un peu partout. Et c'est vrai, on a développé des stratégies au niveau des centres sanitaires, notamment le WashFit. On l'avait fait, mais malheureusement, l'application reste encore difficile.
Et pourquoi, selon vous, ce secteur rencontre des difficultés?
C'est surtout les moyens et aussi le comportement de nous en tant qu'acteurs. Quand on regarde l'assainissement, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, on parle de l'assainissement total piloté par les communautés. Donc, il faudrait que tout le monde s'engage pour aller dans le même sens à vie d'assainir nos communes. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas. On a fait quelques activités au niveau de la commune urbaine de Saïd, mais ça reste encore.
Donc maintenant, quelles sont vos recommandations? Quelles sont les solutions que vous préconisez pour régler tous ces problèmes que vous venez de soulever?
Bon, quand on regarde dans le...
Parlant, c'est bien sûr le directeur départemental qui parle. Voilà.
Voilà. Donc, voilà. Mais c'est toujours nous, nous préconisons la méthode d'approche. Vous voyez, chaque fois, en tout cas, si les gens arrivent à se concerter, on trouvera les moyens pour faire les ouvrages. Par exemple, même si on programme, on dit que c'est une zone d'insécurité, il y a toujours la méthode d'approche qui va faire en sorte qu'on peut réaliser. Il y a les moyens, il y a d'autres stratégies que les gens mettent en œuvre au niveau local pour la réalisation de ça. On ne peut pas dire que parce qu'il y a l'insécurité qu'on ne peut pas faire. C'est vrai, il faut toujours trouver des moyens pour le faire. Donc, à travers peut-être la concertation de tous les acteurs, on peut trouver les moyens. Parce que quand nous regardons autour du parc WC, on dit qu'on peut faire des ouvrages, ça peut étonner. Mais c'est la stratégie, on a pu le faire avec le projet Micro 2, ça s'est réalisé. Donc, du point de vue assainissement, en tout cas, il faut qu'on ait un changement de comportement, l'implication des communes et tous les acteurs dans ce secteur pour vraiment amener à nos communes à assainir bien leur environnement.
Si j'ai bien compris vos recommandations, c'est du point de vue assainissement et du point de vue hydraulique.
Du point de vue hydraulique, il faut que les partenaires préconisent l'approche.
Oui.
L'approche, c'est-à-dire, oui. Quand on dit l'approche, il ne faut pas dire que parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire. C'est la concertation. Il faut toujours aller dans le sens de la concertation.
D'accord. Quel appel lancez-vous peut-être à l'endroit de l'État, à l'endroit de la population?
Donc, à l'endroit de l'État, ce que nous pouvons dire au cas où il y a programmation, c'est de mettre en œuvre, de mettre les moyens nécessaires pour assurer vraiment la réalisation de ces ouvrages. Parce que nous savons que dès que l'endroit est sécurisé, on peut réaliser. C'est tout. Par rapport à l'État, par rapport aux partenaires, en tout cas, nous appelons les partenaires à intervenir beaucoup plus parce qu'on ne peut pas laisser des populations qui sont en difficulté et ne pas les accompagner. C'est surtout ça.
En ce qui concerne l'agriculture, c'est vraiment un sujet très vaste. On peut toucher plusieurs domaines. Bon, pour le moment, nous sommes au niveau de la production et on voit que... On tend vers la production, mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'infestations. Les infestations continuent. Donc, c'est ce qui veut dire que, automatiquement, nous allons mettre l'accent sur les cultures maraîchères. Oui, par rapport à soi, on doit se préparer. On doit chercher les intrants, les semences potagères qu'on va mettre à la disposition des producteurs. Et on va du coup commencer. Ça ne fait pas... La semaine passée, déjà, ils ont fait le lancement à Maradi. Le ministre de l'Agriculture a fait le lancement des cultures irriguées à Maradi. Donc, aussitôt après les récoltes, on va s'atteler à commencer les cultures maraîchères. Mmh. Voilà.
Dans quelles sont vos recommandations, l'appel que vous lancez, par exemple,
bon, l'appel, c'est
à l'État,
chaque
à l'endroit
année,
de l'État, voilà, ou bien de la population?
À l'endroit de l'État, chaque année, on le dit, c'est la mise en place rapide des semences potagères. Oh oui. Donc ça, vraiment, c'est vraiment un appel. Parce que si les semences ne sont pas mises à temps, donc on aura encore un retard en ce qui concerne le démarrage. Donc on a vraiment besoin de mettre les semences à temps aux producteurs. Voilà, c'est le premier appel. Le deuxième appel, c'est à l'endroit de nos producteurs, de se préparer. Vraiment de se préparer. La campagne agricole n'a pas répondu dans certaines zones, dans certaines localités. Donc, on doit préparer les terrains pour les cultures maraîchères.
Oui, vous dites qu'elle n'a pas répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle localité?
Tout à l'heure, j'ai parlé de l'insécurité à Tamou. J'ai parlé de l'insécurité à Galadjo.
Ils n'ont
j'ai
pas
parlé de,
semé.
Voilà. Ils ont semé, mais à cause de l'insécurité, ils n'ont pas pu produire. Oh, il y a eu des abandons de champs. Ils n'ont pas produit. Et j'ai parlé des inondations aussi dans la commune de Saï.
D'accord, donc ouais. Continuez.
Mm-hmm. Donc, tout ça là, c'est vrai. Et de façon générale, les gens se font produire, mais là où il y a eu ces phénomènes-là, ils seront vraiment impactés. Donc, ils n'auront pas une bonne production. Donc, de façon générale, même si là où la production sera bonne, nous allons travailler, nous allons mettre les cultures maraîchères, les cultures irriguées.
D'accord. Voilà. On peut dire que la campagne agricole cette année est à combien de pourcents?
En termes de pourcentage.
En termes de pourcentage, bon, oui. Comparativement
à l'année passée, on peut dire que la campagne agricole a répondu aux attentes des producteurs. En dehors de quelques phénomènes, j'ai parlé des inondations, des infestations, et ça, c'est des localités, ce n'est pas dans tout le département, c'est des localités. Mais dans les autres endroits, vraiment, la campagne, ça a marché.
On peut avoir des pourcentages, des chiffres?
Des chiffres.
Oui.
Bon, jusqu'à présent, on n'a pas fini l'évaluation. Oh oui, donc présentement, je ne peux pas vous brandir des chiffres. On attend la fin de la campagne pour vous donner donc, le résultat définitif.
D'accord. Madame Bibata, quel plus avez-vous à nous dire parlant du secteur animalier de l'élevage?
Oui, pour le secteur de l'élevage, moi, je dirais plutôt l'éleveur doit changer de comportement. Il y a des maladies dont nous croyons que ne peuvent pas venir nous entendre, qui sont en train de revenir sur place. Donc, ces éleveurs-là...
Lesquels, par exemple?
Par exemple, la fièvre aphteuse. Il faut voir comment ça impacte sur la production de lait, sur la production même de viande. L'animal atteint de fièvre aphteuse ne peut même pas se déplacer. Et ces maladies-là sont de retour dans nos zones. Il n'y a pas de traitement approprié. Nous, nous faisons que des traitements symptomatiques. Donc, de telle sorte que nous sommes calés à un certain moment. Donc, nous, l'appel que nous lançons, c'est au niveau de l'autorité de continuer les recherches, voir comment pallier à ce type de maladies. Puisque ces maladies frappent beaucoup, beaucoup, même sur l'économie, même de l'éleveur. Ça frappe beaucoup. Donc, de telle ensemble, il y a plusieurs sortes de maladies de ce genre-là qu'on rencontre un peu partout dans nos zones.
D'accord.
Donc, j'ai dit, problème sanitaire, il existe. Et le problème alimentaire. Moi, ce que je préconise, c'est de faire de telle sorte que le comportement de l'élevage extensif, c'est errer de partout à chercher l'aliment, mieux vaut amener les éleveurs à produire leur production, leur fourrage eux-mêmes. Donc, si tu as l'open de terre, tu peux faire la production fourragère. Toute l'année, tu as quelque chose à nourrir tes animaux. Donc, tu ne peux pas aller chaque fois aller dans une zone où on peut te récupérer tes animaux et te laisser les mêmes vides et dire que... Donc, il faut voir le problème que ça pose. Donc, le problème de changement de comportement, on devrait continuer à sensibiliser ces éleveurs, à leur faire des démonstrations comment nourrir les animaux à l'étable. Donc, création des fermes s'impose, c'est inévitable.
D'accord. Madame Zahra, quel est votre dernier mot? Quelles sont vos recommandations? L'appel que vous pouvez lancer à l'endroit de la population en tant que receveur, bien sûr.
En tant que receveur, je parle toujours sur la mobilisation des ressources.
Oui, sur la mobilisation des ressources.
Vraiment, il faut sensibiliser la population. Il faut faire des sensibilisations pour que les gens puissent payer leurs taxes. C'est parce qu'il y a l'insécurité dans la zone. Les gens se cachent toujours derrière l'insécurité. Là. Même les zones où il n'y a pas l'insécurité, nous partons pour le recouvrir. Toujours, ils ne parlent que de « Ah, il y a l'insécurité » et ils ne peuvent même pas demander quoi que ce soit auprès des contribuables. Donc, vraiment, de sensibiliser la population par rapport à ça.
D'accord. Donc, un des secteurs importants de SAI qui dispose de quatre, vous l'avez soulevé, monsieur Kona, nous avons convié la direction départementale de l'environnement, mais malheureusement, ils n'ont pas pu honorer notre invitation. Nous sommes au terme de ce forum. Merci, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci, fidèles auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre à travers un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans les 8 régions du Niger sur le site internet www.studiokalangu.org et sur les réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.